Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Comme les autres. Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Antoine Joubert est avec nous, il est chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. Antoine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Hey, d'abord, juste une mise à jour. Tu sais, la semaine passée, je te parlais là de ma vieille livre de 5 ans. Là, je me disais, pourquoi je peux pas changer la batterie? Ben j'ai eu l'information finalement. Puis ça coûterait 12 000 $ changer la batterie. Là. Il y a un garage à Trois-Rivières qui fait ça. 12 000 $ ajoutés au prix de la livre qui est là. Je pense que je vais laisser faire.
Ben c'est Simon André Véhicules Électriques là, à Trois-Rivières, si je ne m'abuse, qui font c'est des conversions. Sauf que l'avantage, c'est qu'ils vont te donner une autonomie de loin supérieure à ce que tu as là.
Ouais,
donc
ouais,
là, mais... non seulement, oui, tu remplaces ta batterie, c'est sûr, mais tu as une autonomie supérieure. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine, considérant que ces livres-là ne sont plus en demande et que c'est des voitures qui perdent beaucoup d'intérêt? Moi, je pense pas que ça vaille la peine. Je pense
non,
pas que ça vaille la peine. Puis on le voit là, les premières générations de voitures électriques, ça vieillit très mal. Je parle pas tant de la qualité du produit que de leur pertinence. Tu sais, les premiers ordinateurs rapidement, c'est devenu désuet. Alors c'est un peu la même chose avec les premières voitures électriques. L'autonomie était trop faible. C'était, j'oserais pas dire expérimental, mais c'était les débuts de la voiture électrique de masse. Et puis là, ben on est complètement ailleurs. Fait que c'est sûr que oui, tu peux réinstaller une batterie dedans, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire?
Bon. Ben à 3 000-4 000, je l'aurais fait, mais à 12 000, je le ferais pas. Mais c'est comme les téléphones et les iPads, hein. Je veux dire, ça devient obsolète, puis je pense que c'est volontairement construit de cette façon-là.
Ben en fait, l'industrie auto ne savait pas trop quand ils ont sorti ça où on s'en allait avec les véhicules électriques, parce que les constructeurs ont fabriqué ça à l'époque, c'était pas pour faire un geste environnemental, c'était parce que il fallait rencontrer des normes anti-pollution et on a sorti un véhicule électrique en ne pensant pas que ça deviendrait peut-être la norme aussi rapidement, parce qu'à cette époque-là, beaucoup de constructeurs misaient encore sur l'hydrogène et non pas sur l'électricité. La majorité des constructeurs allemands visaient l'hydrogène beaucoup plus que l'électricité au début des années 2010, mais le vent a tourné rapidement. Il y a beaucoup de constructeurs qui prônaient l'efficacité du diesel aussi, puis on sait ce qui est arrivé avec le diesel en 2015. Fait que tu sais, c'est très, très, très éphémère les changements en automobile, comme dans bien d'autres domaines. Puis la voiture électrique s'est transformée littéralement en 10 ans pour devenir en fait la voie alternative à la voiture à essence que l'industrie a choisi dans le fond.
Ouais. Là, tu veux, Antoine, me parler de l'appropriation des données personnelles dans les véhicules. Je comprends pas ce que tu veux dire.
Bon, alors c'est intéressant parce que la plupart des véhicules modernes sont dotés de systèmes informatiques et l'équivalent de ce qu'on appelle une boîte noire dans un avion. Alors c'est autrement dit, on va cumuler des données. La voiture est capable de savoir comment elle a été conduite, quels ont été les intervalles d'entretien, où elle est allée, quel est le kilométrage qui a été fait, quels sont les intervalles d'entretien qui ont été respectés ou non. Il y a énormément de données, puis ça exclut évidemment les données personnelles du conducteur. Quand on branche notre téléphone dans la voiture, ben évidemment, il y a des mises à jour qui se font automatiquement. Il faut pas penser que quand on branche notre téléphone dans une voiture, il y a rien qui est transféré là-dedans. Il y en a de l'information. Tu sais, l'exemple que je donne assez souvent, c'est le code de porte de garage. Ça fait des décennies que ça existe, le système HomeLink dans des voitures où tu programmes ton code de porte de garage dans ta voiture, puis tu pèses sur le bouton qui est au plafond, puis ta porte de garage va s'ouvrir toute seule. C'est une technologie aujourd'hui qui est bien ordinaire, on s'entend. Mais imagine que tu vends ta voiture, que le code de garage n'a pas été retiré, ben ça voudrait dire que le prochain acheteur de ce véhicule-là pourrait ouvrir ta porte de garage facilement. Alors, avec la technologie d'aujourd'hui.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacan. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avec la technologie d'aujourd'hui, imagine ce que ça veut dire. On est capable de connaître un paquet, d'avoir un paquet de données sur l'automobiliste et les constructeurs automobiles, ce qu'ils ont fait pour s'approprier ces données-là et ne pas les partager avec l'industrie, c'est qu'ils ont commencé à développer des systèmes d'accès au système informatique. Donc, ce qu'on appelle la prise OBD2 dans une voiture, ben aujourd'hui, elles sont en train de se transformer. Chrysler l'a fait en 2018. Plusieurs autres constructeurs ont suivi en 2019. Autrement dit, la plug qu'on utilise pour brancher l'ordinateur dans la voiture afin d'aller chercher un diagnostic de défaillance mécanique ou électronique quelconque, ben ce n'est plus un branchement universel OBD2, c'est un branchement propre au constructeur automobile et un garagiste indépendant qui voudrait avoir cette technologie-là, ça lui coûte une fortune. Il faut débourser plusieurs milliers de dollars pour avoir l'adapteur qui va permettre de brancher un véhicule Chrysler, par exemple, de 2019 ou 2020, alors que dans le fond, c'est la même utilité. Mais pourquoi les constructeurs font ça? Parce qu'ils veulent s'approprier le marché du service après-vente. Ben ils veulent contrôler l'information qui se retrouve dans ces véhicules-là plus que jamais. Parce que ce qui vaut de l'argent pour les compagnies, un peu comme Amazon, un peu comme Google, ben c'est l'information relative à l'automobiliste. Donc, si les constructeurs sont capables de s'accaparer ça, ben c'est une plus-value pour eux qui leur permet de développer des stratégies de marketing en fonction des données qu'ils ont pour mieux vendre leurs futurs véhicules. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que si l'industrie vient à monopoliser le service après-vente, ben il y a des garages indépendants qui vont devoir fermer leurs portes, qui seront plus capables d'être compétitifs. Tout le marché de la pièce automobile après-vente, des carrossiers indépendants, ça serait appelé à disparaître. Évidemment, c'est difficile aujourd'hui de s'imaginer ça, mais si on laisse faire la chose comme ça, ben c'est ce qui pourrait arriver.
Et mais voilà, ça, Antoine, c'est pas au profit des clients, là. C'est pas parce que aller chez le concessionnaire, ça coûte drôlement plus cher que d'aller au mécanicien du coin.
T'as tout compris. Et ce qui risque d'arriver à ce moment-là, c'est qu'un véhicule, parce qu'aujourd'hui, là, c'est rare que les gens vont chez le concessionnaire une fois que la garantie de la voiture est terminée. Après ça, on va chez un garagiste indépendant qui coûte moins cher. Puis, on dirait que l'industrie est un peu décidée comme ça. Et les concessionnaires automobiles n'ont jamais mis des efforts pour conserver des clients longtemps. Eux autres, ils mettent des efforts pour remplacer les véhicules. Donc, autrement dit, une fois que ta garantie est finie, on va tout faire pour t'en vendre un autre. Mm-hmm. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Mais imagine si jamais la seule place pour réparer ta voiture, c'est le concessionnaire, et que le concessionnaire te charge des prix ridiculement élevés pour ton entretien, ben, t'auras pas le choix, pratiquement, que de changer de véhicule. Et à ce moment-là, ça créait un roulement de véhicules. Ça ferait en sorte que le parc automobile rajeunirait, et pour l'environnement, ça serait épouvantable parce qu'on jetterait un paquet de véhicules qui sont encore bons.
Donc, qui va prendre la défense des clients là-dedans, Antoine?
Alors voilà. Aux États-Unis, il existe plusieurs organismes, AutoCare et ASA notamment, qui ont lancé une campagne qui s'appelle Your Car, Your Data, Your Choice. Autrement dit, on voit ça sur des chaînes de télé nationales. On informe la population sur le fait que vous êtes en droit d'aller voir le garagiste qui vous plaît pour l'entretien de votre véhicule, et on met en lumière le service des garages indépendants qui devrait avoir droit, qui devrait avoir accès aux informations des constructeurs automobiles. Donc, on se bat pour que cette industrie, l'industrie des véhicules neufs, donc les constructeurs automobiles, partagent l'information avec les garages indépendants et les compagnies indépendantes. Mm-hmm. C'est un gros débat actuellement aux États-Unis, parce que même les concessionnaires de véhicules neufs sont pas en faveur de ça. Tu vas comprendre qu'un concessionnaire de véhicules neufs, disons que c'est un concessionnaire Nissan, ben lui, dans sa cour, il y a des véhicules d'occasion Chevrolet, Honda. Alors, il veut pouvoir les réparer. Il veut pouvoir faire l'entretien de ces véhicules-là aussi, parce que c'est pas que des véhicules Nissan qui se retrouvent dans son atelier. Alors, même pour le concessionnaire, c'est pas quelque chose qui est favorable. Maintenant, les constructeurs automobiles, eux, qui ont des visions bien différentes, aimeraient pouvoir monopoliser ce marché-là. Il y a une grosse campagne qui roule aux États-Unis. Du côté canadien, ben c'est l'AIA qui tente de faire pression sur les gouvernements pour légiférer en ce sens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement le ministre, j'oublie son titre, là, c'est pas transport sécurité publique, là, peut-être que tu me ramèneras ça. Navdeep Bains,
au fédéral,
ministre fédéral. Bon, alors ce ministre-là est responsable d'un projet de loi sur l'accès à l'information informatique, électronique, et l'AIA essaie de glisser là-dedans une clause relative à l'automobile pour que les garages indépendants puissent avoir accès à l'information. Le gag, c'est que Monsieur Bains, on sait à quel point le lobbying des constructeurs automobiles est très très fort vis-à-vis du gouvernement canadien. On le voit on le voit dans toutes sortes de situations là, et particulièrement du côté des constructeurs qui ont des usines au Canada, donc Toyota, Honda, Ford, GM et Chrysler. Le gag, c'est que M. Bains a travaillé pendant de nombreuses années chez Ford du Canada comme analyste. Alors là, tu comprends que y a une espèce de petit conflit là-dedans, dans la mesure où il pourrait être influencé fortement par les constructeurs automobiles. Alors l'AIA tente de mettre de la pression. Sur le site de l'AIA, il y a même une pétition qu'on peut signer pour contester ce problème-là. On est encore, puis évidemment, pas besoin de te dire que le crayon pèse pas très fort du côté canadien versus l'influence américaine comme d'habitude. Ben oui. Là. Mais c'est un problème qu'il faut adresser rapidement et qu'il faut régler rapidement, parce que sinon, ben l'automobiliste pourrait d'une part ne plus être propriétaire de ses données dans sa voiture et ne plus avoir le choix de son atelier mécanique. Alors ça, c'est un gros dossier.
Ouais, c'est vraiment intéressant. On va suivre ça, Antoine Joubert. C'est vraiment vraiment intéressant. Puis ça implique des jobs aussi là, la perte de jobs et la perte.
Absolument.
Les droits des clients.
On pense aux garagistes, on pense aux ateliers de carrosserie, mais on pense aussi à tous les fabricants de pièces après-marché. C'est des milliers et des milliers d'emplois juste au Québec, là. Alors, c'est énorme.
On suit le dossier, Antoine Joubert, puis tiens-nous à jour l'évolution de cette affaire-là. Merci, on se reparle la semaine prochaine.
Ça marche.
Salut.